Théologie biblique par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 25 juin 85.
Donc nous terminons l'année scolaire avec une petite considération sur ce que nous avons commencé de voir, qui aurait été intéressant de voir en entier. Cette année-ci, nous avons donc essayé de lire, de faire une lecture sur l'Exode. Comprendre comment l'Exode, c'est le grand livre de la miséricorde. Comment Dieu libère son peuple, théologie de la libération, qu'il faut prendre en premier lieu dans l'Exode, c'est sûr. C'est là où on voit la grande révélation, si vous voulez, de la miséricorde de Dieu qui se révèle à nous. Et parallèlement à cette miséricorde, le rôle du médiateur. Je crois que c'est très important au point de vue théologique et au point de vue économie divine de comprendre que toujours le mystère de la médiation est enveloppé de la miséricorde. Et Moïse représente le grand médiateur. Et en même temps, nous voyons la difficulté de ce médiateur. Les saintes colères de Moïse, les saintes colères de Dieu. Il y a donc là aussi, parallèlement à la théologie de la miséricorde, la théologie des colères de Dieu. Ce qui serait aussi très intéressant à faire. Je vous ai dit, c'est un des aspects, je ne crois pas que ça a été fait. La théologie des colères de Dieu à travers l'Ancien Testament. C'est pas étonnant, l'Ancien Testament mettant très en lumière, comme dit saint Augustin, la justice de Dieu, l'ordre de la justice de Dieu. Mais, par le fait même, très en colère, très en lumière, les colères de Dieu. Et le sens de la justice qui nous est donnée par le point de vue de la loi. Oui. Au fond, justice et miséricorde se révèlent en même temps à travers le mystère du médiateur et la loi. La loi, c'est une médiation, mais cette loi est tout de suite doublée d'un autre médiateur qui est un être vivant. La loi n'a jamais été donnée toute seule, heureusement. Il y a tout de suite l'interprétation de la loi qui est donnée par Moïse. Et le point de départ de la grande liturgie qui nous est donnée à travers le point de vue de cette révélation divine. Vous avez ensuite le livre Le Lévitique. Alors, Le Lévitique, c'est le rituel des sacrifices. Un livre qu'on ne lit pas beaucoup. L'investiture des prêtres et leur premier sacrifice. La loi de pureté. La loi de sainteté. Dire que c'est tout ça est impliqué dans le Lévitique. Lévitique est un livre qu'il faut lire, c'est pas très drôle à lire. Je me souviens que je l'avais commenté à Paris devant un petit groupe de catholiques et de protestants. C'était particulièrement intéressant et c'était les protestants qui m'avaient demandé de prendre le Lévitique. C'est pour vous dire que les goûts quelquefois varient. Le livre des nombres, c'est en premier lieu le livre qui nous montre, qui reprend, si vous voulez, le début du livre des nombres. C'est le début qui est le plus intéressant. Après, ça devient quelque chose de plus difficile. Au Sinaï, avant le départ. C'est un livre de recension. Alors, c'est là où il faudrait faire la théologie des nombres. Avis aux amateurs. Là encore, les goûts sont différents. Alors, le livre des nombres, c'est quand même une théologie des nombres. J'en suis sûr qu'il y a toute une théologie des nombres qu'on devrait essayer de découvrir à travers le livre des nombres. Pourquoi ça? Les recensions, les nombres, les diverses tribus qui sont données de cette manière-là, très étonnant, d'une façon très étonnante, avec tout ce que ça représente. J'avoue que personnellement, ce n'est pas un livre que je lis régulièrement chaque année. N'est-ce pas ? Je crois que ça n'arrive rarement. Ensuite, le Deutéronome. Alors, unissez ces livres. Alors, au point de vue exégétique, vous avez tous les problèmes que ça a posés. Très anciens. Je dirais que c'est peut-être à partir de ces livres-là qui ont posé aux exégètes le plus de problèmes. Ce que représente ce carré, la Torah. Ces livres qui représentent toute une structure. L'Exode, bon, l'Exode c'est le chemin. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce que pour nous c'est celui qui parle le plus. C'est le plus parlant. Le point de vue de la liturgie et l'importance de la liturgie lévitique. L'importance de la pureté rituelle. Ça c'est très très fort. L'importance du sacrifice et la loi des sacrifices. Le point de vue des nombres, la manière dont Dieu ordonne son peuple et veut qu'il soit ordonné. Et le Deutéronome, alors, c'est un livre que j'aurais beaucoup aimé si j'avais eu le temps. On aurait vu le nom, l'Exode et le Deutéronome. Parce que je crois que le Deutéronome, c'est un livre qu'on doit voir un peu en parallèle avec l'Exode. C'est aussi un livre qui nous met très très fort en parallèle, qui nous met très très en présence du rôle du médiateur. Et évidemment, il y a des épisodes qui se recoupent avec l'Exode, c'est bien évident. Donc, ce qui fait de petits problèmes intéressants. C'est pas du tout le même genre, la même intention. C'est plus complet sous certains aspects. Au point de vue théologique. Et sous d'autres aspects, l'Exode donne quelque chose qui est plus le devenir. Alors, évidemment, il faudrait essayer de trouver la signification théologique de ces quatre livres, inséparables, et qu'il faut considérer comme inséparables, selon toute la grande tradition juive. Il ne faut pas les séparer, ils se tiennent. Alors, est-ce que c'est la miséricorde qui commande tout. Vous voyez, la miséricorde commandant le point de vue de la justice, commandant le point de vue de l'attitude religieuse, hein, le retour vers Dieu. Nous pouvons retourner vers Dieu avec une attitude liturgique parce que la justice est enveloppée de miséricorde. Alors on a cette confiance. La question du nombre, on comprend très bien. Cette miséricorde se fait dans la lumière et la sagesse. Et le Deutéronome nous met en présence des diverses activités de Moïse. Alors si vous voulez, nous allons terminer en regardant rapidement la fin du Deutéronome, qui est quand même quelque chose de très beau et de très grand. Les quatre derniers chapitres du Deutéronome. Toujours, hein, c'est pour ça que pour la théologie du médiateur, c'est l'Exode et le Deutéronome. Hein. On ne peut pas s'arrêter à l'Exode, il faut regarder le Deutéronome. Moïse alla dire ses paroles à tout Israël, puis il leur dit. Alors, toutes ces paroles, c'est les paroles justement qui lui ont été dites. Lors donc arriveront, chapitre 30, lors donc arriveront sur toi toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que j'ai placées devant toi, si tu les rappelles à ton cœur parmi toutes les nations où t'auras chassé Yahvé ton Dieu, si tu reviens Yahvé ton Dieu, et si tu écoutes sa voix, toi et tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme, suivant tout ce que je te commande aujourd'hui, Yahvé ton Dieu changera ton sort, il te fera miséricorde et de nouveau, il te rassemblera de chez tous les peuples où t'auras dispersé Yahvé ton Dieu. Quand bien même tes bannis seraient à l'extrémité du ciel, de là Yahvé ton Dieu te rassemblera, de là il te prendra. Yahvé ton Dieu te fera rentrer dans le pays qu'ont possédé tes pères, et tu les posséderas. Il te fera du bien, et te multipliera plus que tes pères. Yahvé, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Yahvé, ton Dieu, fera tomber toutes ces imprécations sur tes ennemis et sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras, tu écouteras la voix de Yahvé et tu pratiqueras tous ses commandements, tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Yahvé, ton Dieu, te fera surabonder de bien dans ton œuvre, dans toute œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre, dans le fruit de ton bétail, dans le fruit de ton sol. Vous voyez, toutes les fécondités qui sont précisées. Hein. Car, de nouveau, Yahvé mettra sa joie dans ton bonheur, comme il a mis sa joie dans celui de tes pères, pourvu que tu écoutes la voix de Yahvé, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordonnances. Ce qui est écrit dans ce livre de la loi, si tu reviens vers Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas impossible pour toi ni hors de ta portée. Il n'est point dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel pour le prendre et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions ?» Il n'est point par-delà la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous au-delà de la mer, nous le prendre et nous le faire entendre, afin que nous le pratiquions ?» Non, tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la pratiques. Vous voyez, comme vous voyez tout de suite, hein, je crois, la différence avec l'Exode. Hein. Une espèce d'intériorité dans le Deutéronome qui commence et qui est très nette. L'Exode, c'est le chemin, c'est la marche. Tandis que le Deutéronome a quelque chose qui montre beaucoup plus l'intériorité. On insiste tellement sur le cœur, hein, sur donc l'intimité qu'il doit y exister entre Moïse et Yahvé. Vois, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Si tu obéis au commandement Yahvé ton Dieu, que je te commande aujourd'hui, en aimant Yahvé ton Dieu, en marchant dans ses voies, en observant ses commandements, ses ordonnances et ses règles, tu vivras, tu te multiplieras, et Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez sûrement, vous ne prolongerez pas vos jours sur le sol où tu vas entrer en passant le Jourdain pour en prendre possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai placée devant toi. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant Yahvé ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui, car c'est là la vie, avec de longs jours à demeurer sur le sol que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui leur donnerait. Oui, l'insistance aussi beaucoup plus du rattachement de Moïse au patriarche. Et ça, c'est l'intimité. Les patriarches, c'est toujours l'intimité. Moïse, comme tel, c'est la loi. Alors, dans le Deutéronome, il y a ce souffle d'intériorité, de rattachement. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, vous voyez, dans cette fin du Deutéronome, hein, si on pouvait un petit peu insister. On verrait que on est au seuil de l'entrée de la terre promise. Donc, c'est pour nous, comme une préfiguration du moment où l'Église sera au terme de son pèlerinage, au seuil de la vision béatifique, et une exigence d'intériorité nouvelle. Là, c'est là où on doit se demander, hein, toujours, si Vatican II n'est pas ce concile qui exige cette intériorité nouvelle, cette intériorité qui nous est donnée par Marie, cette intériorité à l'égard même de la charité fraternelle. Ça me frappe beaucoup, c'est pour ça que ce serait intéressant, nous n'avons pas le temps de le faire, mais vous pouvez facilement le faire, ça, lire le Deutéronome pendant les vacances. Hein, parce qu'on a vu l'Exode, voir le parallélisme avec l'Exode, pour découvrir toujours le médiateur, hein, et la théologie du médiateur. Et alors, soyez attentifs à ça. Quand on s'approche de l'entrée en terre promise. Et penser à l'Église dans son terme de son pèlerinage. C'est quelque chose d'analogue. Hein. Et il y a toujours ces moments qui sont particulièrement importants. Moïse alla dire ces paroles à tout Israël, puis il leur dit, « Je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. » Quand on fête l'anniversaire des 120 ans, ça fait beaucoup de bougies. « Je ne puis plus aller et venir. » Et Yahvé m'a dit, « Tu ne passeras pas ce Jourdain. » Pour l'anniversaire, c'est pas drôle. Hein. Mais c'est le Seigneur qui est là, 120 ans. « Tu ne passeras pas ce Jourdain. Yahvé ton Dieu, c'est lui qui passera devant toi. » Lui qui anéantira ces nations devant toi pour que tu les dépossèdes. C'est Josué qui passera devant toi selon ce qu'a dit Yahvé. Yahvé les traitera comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, ainsi que leur pays qu'il a anéanti. Yahvé les livrera à votre merci et vous les traiterez en tout selon le commandement que je vous ai commandé. Soyez forts et courageux, ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux, car c'est Yahvé, ton Dieu, qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit, sous les yeux de tout Israël, sois fort et courageux, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que Yahvé a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en fera hériter. Car c'est Yahvé qui marchera devant toi, lui qui sera avec toi. Il ne te délaissera pas, ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Moïse écrivit cette loi et la donna au prêtre, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de Yahvé. Et à tous les anciens d'Israël, Moïse leur donna ce commandement. Au bout de 7 ans, au temps fixé pour l'année de la rémission, à la fête des Huttes, quand tout Israël viendra pour paraître devant Yahvé, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël, à leurs oreilles. Assemble le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que tout résident qui est dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre Yahvé, votre Dieu, et qu'ils veillent à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Et leurs fils, qui ne savent pas, entendront et apprendront à craindre Yahvé, votre Dieu, tous les jours que vous vivez sur le sol dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Yahvé dit à Moïse, « Voici qu'approchent les jours de ta mort, appelle Josué, et présentez-vous dans la tente de la rencontre pour que je lui donne des ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente de la rencontre. Josué y avait apparu dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée se tint à l'entrée de la tente. Yahvé dit à Moïse, « Voici que tu vas te coucher avec tes pères, et ce peuple ira se prostituer à la suite des dieux de l'étranger, de ce pays au milieu duquel il va entrer. » Il m'abandonnera et rompra mon alliance que j'ai conclue avec lui. Ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je les abandonnerai et leur cacherai ma face, en sorte qu'on les dévorera et que l'atteindront une multitude de maux et de détresse. Et il dira en ce jour-là, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se détournant vers d'autres dieux. Et maintenant, écrivez pour vous le cantique que voici. Enseigne aux fils d'Israël, mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoin contre les fils d'Israël. Lorsque je l'aurai fait entrer sur le sol que j'ai promis par serment à ses pères, un sol ruisselant de lait et de miel. Il mangera et se rassasira et engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux. Ils les serviront et me mépriseront et il rompra mon alliance. Lors donc que l'atteindront une multitude de maux et de détresse, ce cantique portera témoignage contre lui, car il ne sera pas oublié de la bouche de ses descendants. Je sais en effet le dessein qu'il forme aujourd'hui, avant même que j'ai fait entrer dans le pays, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays, que j'ai promis par serment à nos pères. Moïse écrivit ce cantique en ce jour-là, et il l'enseigna aux fils d'Israël. Mais vous retrouvez bien, c'est bien le point de vue de la médiation, qui est dit d'une façon encore plus nette dans le Deutéronome, mais il y a une note spéciale, très particulière. Puis alors ça, c'est cette fin de Moïse qui est évidemment importante. Hein. C'est toujours les débuts, le début de la vie de l'entrée de Moïse et la fin. Toujours, c'est deux aspects. Et quand saint Thomas regarde la vie du Christ, il souligne l'entrée dans le monde et le terme. Si on regarde le point de vue d'être envoyé, c'est le point de départ et le terme. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une théologie de l'Église parfaite, parce qu'on ne connaît pas encore le terme. La théologie de l'Église, on ne pourra se faire que dans le ciel. Si on a commencé dans le ciel, on a commencé sur la terre, on terminera dans le ciel. Mais pour l'histoire du peuple d'Israël, on peut faire le point de départ et le terme, parce qu'on voit Moïse au point de départ et Moïse au terme. Donc la théologie de Moïse, la théologie du médiateur, c'est très important de voir ça, de voir que Moïse n'entre pas dans la terre promise. Les patriarches ont terminé pleinement dans l'amour. Ils ont tous été enterrés l'un près de l'autre, avec leur épouse. C'est quand même très net. Il y a quelque chose de particulier, parce que les patriarches, c'est l'alliance avec le cœur. Là, ça s'achève parfaitement. Moïse, c'est l'alliance de l'intelligence pratique, politique. L'alliance avec la prudence. C'est très très difficile d'être saint dans son intelligence. Je crois que c'est une des choses les plus difficiles. C'est pour ça que beaucoup aiment mieux garder leur bêtise, voyez, en croyant qu'ils vont être plus saints. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Hein. Dieu nous demande tous de faire un effort d'être intelligent pour lui. Et pour ceux qui sont auprès de lui, pour ceux qui sont auprès de nous. Mais c'est très difficile de sanctifier l'intelligence. Ça, il faut le comprendre. Parce que toute actuation d'intelligence, tout développement de l'intelligence nous porte à l'orgueil. C'est plus facile d'obéir. C'est plus facile d'obéir quand son intelligence est moins développée. Ça, c'est sûr. C'est plus difficile. Mais c'est beaucoup plus grand aussi. C'est beaucoup plus grand. Or, Moïse, c'est quand même l'intelligence. Hein. Moïse a toute l'éducation de l'Égypte. C'est toute l'éducation de l'Égypte que Dieu assume en Moïse pour lui donner une espèce de profondeur nouvelle. Et on passe de l'éthique religieuse de l'Égypte avec des quantités de choses qui sont à côté. Grâce au désert. Ça aussi, c'est une des dimensions hein, que je n'ai pas souligné tout à l'heure, mais la réalité du désert. La réalité du désert dans le plan de Dieu. Et ce que ça représente. Et je crois que c'est la purification de l'intelligence. La grande purification de l'intelligence. Si je suis attentive, vous ne voyez pas le désert chez les patriarches. Ben, le désert existe, oui, parce qu'il est. Mais il n'y demeure pas. Tandis que Moïse doit demeurer 40 ans dans le désert. Purification de l'intelligence. Purification de l'intelligence pratique. Purification de la prudence. Évidemment, ceux qui n'en ont pas du tout de prudence, hein, c'est plus facile de la purifier. D'une certaine manière, ils n'en ont pas. Mais on doit tous acquérir la prudence. Jusqu'à la prudence de la conduite sur les routes. Ça fait partie de la prudence. Alors il faut acquérir cette prudence. Et alors cette prudence acquise au point de vue humain doit être transformée par la grâce. Il donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Sois fort et courageux. « Car c'est toi qui feras entrer le peuple d'Israël dans le pays que je leur ai promis par serment, et moi je serai avec toi. » L'ordonnance que Moïse eut achevé d'écrire jusqu'à la fin sur un livre, les paroles de cette loi, Moïse donna ce commandement aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Yahvé. Prenez ce livre de la loi et vous le mettrez à côté de l'arche de l'alliance de Yahvé, votre Dieu. Là, il servira contre toi de témoin, car moi, je connais ta nature rebelle et ta nuque raide. Si aujourd'hui, que je suis encore vivant au milieu de vous, vous vous êtes montré rebelle envers Yahvé, combien plus après ma mort. Assemblez auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos scribes, que je dise ces paroles à leurs oreilles, et que je prenne à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous pervertir, et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur vous arrivera dans la suite des jours, parce que vous aurez fait ce qui est mal aux yeux d'Yahvé, pour l'indigner par l'œuvre de vos mains. Moïse dit aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce cantique jusqu'à la fin. Oui, comme c'est solennel. Hein. Aucune mort des patriarches n'a eu ça. Il y a une espèce d'orchestration par rapport à Moïse. Qui est très très grande. Parce que Moïse joue ce rôle de purificateur, le passage des Égyptiens dans la terre promise. Prêtez l'oreille aux cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Donc c'est le grand cantique de Moïse. Que mon savoir se distille comme la pluie, que ma parole s'épande comme la rosée, comme des averses sur les verdures, comme des ondées sur le gazon. Car c'est le nom de Yahvé que j'invoque, donner la grandeur à notre Dieu. Le rocher, parfait est son action, car toutes ses voies sont justice, Dieu de sincérité et sans iniquité. Il est juste, lui, il est droit. Ils se sont pervertis, eux, le centaure ils avaient engendré. Génération tortueuse et fausse. Est-ce là ce que vous rendez à Yahvé, peuple insensé, dépourvu de sagesse? N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a acquis? Lui qui t'a fait et qui t'a établi? Souviens-toi des jours antiques. Considérez les années d'âge en âge. Interroge ton père. Il t'informera, tes anciens, ils te diront. Vous voyez la tradition, l'exigence de la tradition, la prescription de la tradition. Souviens-toi des jours antiques. Tout ça reste vrai, hein, pour nous aussi. Souviens-toi des jours antiques. Considérez les années d'âge en âge. Interroge ton père, il t'informera. Tes anciens, ils te diront. Quand le Très-Haut faisait hériter les nations, quand il séparait les fils d'Adam, il dressa les bornes des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Vous voyez, le nombre des fils d'Israël. Alors ça joue depuis le livre des Nombres jusqu'à l'Apocalypse. Hein. Grand mystère. Grand mystère des Nombres. Tout ce qui vient de la sagesse implique ordre, nombre et poids. Donc c'est la marque de la sagesse, le nombre. Je crois que c'est parce que quand c'est nombré, c'est ordonné. La masse est non ordonnée. Elle n'est pas nombrée. Il dressa les bornes des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Car la part de Yahvé, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouve dans un pays désert, dans un chaos hurlant et désolé. Il l'entoure et prend soin, le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle excitant sa nichée, planant au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes et le prend, le porte sur ses plumes. Yahvé seul le guide, nul dieu étranger avec lui. Il le fait chevaucher sur les hauteurs du pays. Il le nourrit des produits des champs. Il lui fait sucer le miel du roc, l'huile du silex d'un roche, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, les béliers, les fils de bacane et les boucs, avec la graisse des noyaux du blé et le sang de la grappe que tu bois fermenté. Jacob mange et se rassasie. Yekourum s'engraisse et regimbe. Tu t'es engraissé, épaissi, gavé. Il rejette Elor qui l'avait fait. Il avilit le rocher de son salut. Il le rend jaloux par des étrangers, par des abominations, il l'indigne. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas Elohim, à des dieux qu'ils ne connaissent pas, à des nouveaux venus récemment arrivés, devant lesquels vos pères n'avaient pas frémi. Tu dédaignes le rocher qui t'a engendré. Tu oublies le Dieu. Oublie le Dieu que tu as mis au monde. Tu oublies le Dieu qui t'a mis au monde. Yahvé le voit et il méprise. Dans son indignation, ses fils et ses filles, il dit : je vais leur cacher ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une génération perverse, des fils qui n'ont pas de sincérité. Eux m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont indigné par leur vanité. Eh bien, moi, je les rendrai jaloux par ce qui n'est pas un peuple. Par une nation insensée, je les indignerai. Car un feu s'est allumé dans mes narines. Il brûle jusqu'au tréfonds du Shéol. Il dévore la terre ainsi que sa récolte. Il embrase les assises des monts. J'entasserai sur eux les maux. Mes flèches, je les épuiserai contre eux. Ils seront minés par la faim, dévorés par la fièvre et par la peste amère. J'enverrai contre eux la dent des bêtes et le venin de ceux qui se traînent dans la poussière. Au dehors, le glaive les privera d'enfants. Au dedans, ce sera la terreur pour le jeune homme et pour la jeune fille, pour le nourrisson comme pour l'homme aux cheveux blancs. J'ai dit, je les réduirai en poussière, j'abolirai leur mémoire d'entre les mortels. Si je redoutais l'indignation de l'ennemi, que leur adversaire ne se méprenne et ne dise, notre main s'est levée, et ce n'est pas Yahvé qui a fait tout cela, car c'est une nation qui erre en ses conseils, et en eux point d'intelligence. S'ils étaient sages, ils comprendraient cela, ils discerneraient ce que sera leur fin. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en feraient-ils fuir 10 000, sinon parce que leur rocher les a vendus et que Yahvé les a livrés. Vous voyez toujours ce symbolisme du rocher qui prend là une signification très particulière pour Moïse. D'où jaillit l'eau. Et ce rocher qui a été le lieu, hein, particulièrement de la tentation, du manque de foi, du manque de confiance. C'est très important de voir tout le symbolisme du rocher à travers tout l'Ancien Testament. Et Pierre qui est le roc. Il ne faut pas l'oublier, le nouveau roc. Et c'est cette chose étonnante. Jésus est pour nous ce rocher. Mais Pierre aussi. Car c'est une nation qui erre en ses conseils et en eux point d'intelligence. S'ils étaient sages, ils comprendraient cela et discerneraient ce que sera leur fin. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Deux en feraient-ils fuir 10 000? Sinon parce que leur rocher les a vendus et que Yahvé les a livrés. Car leur rocher n'est point comme notre rocher, et nos ennemis en sont juges. Car leur vigne est une vigne de Sodome et un vignoble de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, grappes amères que les leurs, venin de serpent leur vin, atroce poison d'aspic. Cela n'est-il pas réservé près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied chancellera. Car il est proche le jour de leur infortune. Et ce qui les attend se précipite. Oui, Yahvé fera droit à son peuple, et sur ses serviteurs il s'apitoiera quand il verra que leur force est disparue, et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Alors il dira, où sont leurs dieux, le rocher où ils s'abritaient, ceux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent et qu'ils vous secouent. Que pour vous, il soit un asile. Voyez maintenant que c'est moi qui suis moi et qu'il n'y ait point de Dieu à côté de moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Je blesse et c'est moi qui guéris et personne ne délivre de ma main. Oui, je lève ma main vers le ciel et je dis, aussi vrai que je vis à jamais, quand j'aurai aiguisé mon glaive fulgurant et que ma main saisira le jugement, je retournerai la vengeance contre mes adversaires. Et je paierai leur dû à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon glaive dévorera de la chair, du sang des tués, des captifs, des têtes aux cheveux flottants de l'ennemi. Acclamez son peuple aux nations, car il venge le sang de ses serviteurs, il retourne la vengeance contre ses adversaires et fait l'expiation pour le sol de son peuple. Moïse vint dire toutes les paroles, ce cantique aux oreilles du peuple, lui et Josué, fils de Naoum. C'est très important, vous voyez, de comprendre que le législateur, cet homme du droit, termine sa vie par le cantique. Et je pense à saint Thomas et les cantiques sur l'Eucharistie. Cet homme, Moïse, c'est pas un poète. Du moins, ça ne nous donne pas l'impression. Bien, Moïse devient poète à la fin de sa vie. Cantique, c'est beau ce cantique. C'est grand, c'est puissant, c'est fort. C'est le premier cantique. C'est le premier grand cantique. Le premier grand cantique que nous voyons. Et donc, ce législateur, il est poète. Et en étant poète, il est prophète. La prophétie naît de la poésie. Dieu l'a fait naître de la poésie, ça, c'est un fait. On comprend bien, c'est difficile d'être prophète par la loi. Pas tout à fait le même langage. Et là, ce qui est très curieux, c'est de voir que Moïse prophétise dans cette grande prophétie. Et là, alors il dépasse. C'est un Moïse tout à fait différent. Et vous voyez pourquoi. C'est un Moïse qui a offert tout. Il est déjà mort. Et c'est simplement ce petit fait qu'on souligne comme ça, n'est-ce pas ? Et qui est très impressionnant. Moïse vint dire toutes ces paroles de ce cantique aux oreilles du peuple, lui et Josué. Pour Moïse, ça représente quelque chose, hein, d'avoir Josué qui prend la succession. Il n'est plus dedans, vous voyez. Il n'a plus la responsabilité. Alors, il y a cette espèce de grand lyrisme poétique qui termine. Et qui me semble très très beau de voir ça dans Moïse. Ce lyrisme de Moïse à la fin de sa vie. Vous voyez, on peut dire, c'est le contemplatif, hein. Il est contemplatif dans le silence sur le mont Sinaï. Et puis il est contemplatif à la fin de sa vie. Il y a un lyrisme étonnant, là. Quelque chose d'inouï. Alors je crois qu'on doit saisir ces choses-là au point de vue de l'économie divine. Hein. Comment Moïse, quand il exerçait l'autorité, qu'il devait l'exercer, ne pouvait pas être ça. Il faut qu'il meure dans son autorité pour s'ouvrir à l'esprit de prophétie, pour s'ouvrir à ce grand aspect merveilleux. Alors là, il y a quelque chose de très très grand. C'est le médiateur qui retourne à sa source, qui retourne vers Dieu. Alors, c'est ces choses-là qu'on devrait peut-être essayer de saisir au point de vue de l'économie divine. Est-ce que Vatican II ne représente pas quelque chose comme ça? Toujours pour comprendre Vatican II, c'est difficile à comprendre Vatican II. Et on doit essayer de le comprendre à tout prix. Est-ce que Vatican II ne représente pas quelque chose comme ça? L'Église qui arrive à son terme, alors qui subitement parle de Marie comme elle n'en a jamais parlé dans un concile, et subitement met la charité fraternelle dans une lumière extraordinaire. La charité fraternelle, c'est l'amour qui fleurit, hein, flos florum, hein, c'est la fleur de la fleur, c'est l'amour qui fleurit dans la sensibilité humaine, à travers le corps humain, c'est l'amour qui prend possession de tout. C'est bien ça, ce cantique. Et nous allons voir, parce que ce cantique va impliquer une bénédiction qui va être encore une prophétie. Quand Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je l'atteste aujourd'hui contre vous. » C'est très joli cette affirmation, toujours « Je l'atteste contre vous ». On l'a lu constamment, cette formule. C'est au fond une affirmation au sens le plus fort. C'est une promesse, presque un serment. Vous les prescrirez à vos fils pour qu'ils veillent à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une parole vide pour vous, mais c'est votre vie. Et c'est par cette parole que vous prolongerez vos jours sur le sol dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. Il n'y a pas la moindre amertume chez Moïse de ne pas aller sur la terre promise. Ce même jour, Yahvé parla à Moïse en ces termes. Monte à la montagne des Abarim, que voici le mont Nebo, qui est au pays de Moab, face à Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël en propriété. Extraordinaire. Si ce n'est pas Dieu qui faisait ça, on dirait que c'est cruel, hein. Il monte tout ça et puis, ah, tu n'y vas pas, toi. Il faut que Moïse, vous voyez, l'offre et qu'il le voit. Il est entré par la vision. Et regarde le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël en propriété. Puis meurs sur la montagne où tu vas monter et sois réuni au tien. De même qu'Aaron, ton frère, est mort à Or, la montagne, il a été réuni au sien. Parce que vous m'avez été infidèle au milieu des fils d'Israël, aux eaux de Meriba, à Kadesh, dans le désert de Sin. Parce que vous n'avez pas fait éclater ma sainteté au milieu des fils d'Israël. C'est à distance que tu verras le pays, et tu n'y entreras pas dans ce pays que je donne aux fils d'Israël. Dieu le monte, mais ne l'aime pas. Il reste très impressionnant d'aller, ceux qui peuvent aller au mont Nebo, d'aller au mont Nebo, de voir le lieu où Moïse est mort, le lieu où il a vu la terre de Canaan. C'est extraordinaire, hein, voyez, l'aspect de la miséricorde et la justice, hein, jusqu'au bout. Dans la nouvelle alliance, il n'y avait pas ça, hein. La justice jusqu'au bout. Nebo. La miséricorde permet à la justice d'aller jusqu'au bout. Je crois qu'on peut le dire, ça. Et c'est frappant. Donc, livre de la miséricorde, livre de la justice. Et puis ce cantique, qui est magnifique. Et voici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Il dit, Yahvé est venu du Sinaï. Et de Séhir, il s'est levé pour eux. Il a resplendi depuis le mont Paran. Il est venu des myriades de cadets, du sud pour eux, aux Akédans. À coup sûr, il aime les peuples, mais tous ses saints sont dans ta main, et eux s'abaissent à tes pieds. Chacun reçoit de tes paroles. Moïse nous a prescrit une loi, une possession pour l'assemblée de Jacob. En Yehoram, il y eut un roi. Quand ils se réunirent les chefs du peuple, les tribus d'Israël ensemble, que vive Ruben et qu'il ne meure pas. Alors nous allons avoir ici les 12 successivement. Donc la bénédiction est une prophétie sur les 12. Et c'est là où je dirais la grandeur de Moïse éclate. Alors pourquoi Moïse a dû... La bénédiction de Moïse à l'égard des 12, c'est son testament. C'est son testament, c'est le testament de Moïse à l'égard de chaque tribu et pour chacune des tribus. Et chacune des tribus, elle aurait vu d'une façon mystique. Moi, je crois que c'est le regard mystique sur chacune des tribus. C'est le regard de Dieu prophétique sur chacune des tribus. Que vive Ruben, qu'il ne meure pas. Et que ces hommes soient en petit nombre. Et voici pour Judas, il dit, écoute, Yahvé, la voix de Judas, et fais-le venir vers son peuple, ses mains lutteront pour lui, et tu seras un secours contre ses adversaires. Et pour Lévi, il dit, ton Thummim et ton Urim sont pour ton homme pieux, que tu as mis à l'épreuve à Massa, et que tu as corrélé aux eaux de Meriba, lui qui dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus, lui qui ne reconnaît pas ses frères, et qui ne sait rien de ses fils, car ils ont observé ta parole et gardé ton alliance. Il enseigne tes règles à Jacob, et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines, et l'offrande totale sur ton autel. Pour Lévi, on voit les prêtres. C'est le regard de Dieu sur la tribu de Lévi, comme sur la tribu de Judas. Alors, ceux qui ont vu les très beaux vitraux des 12 tribus, hein, qui sont à la synagogue à Jérusalem, qui ont été exposés à Paris dans le temps, c'est Chagall. Chacun a fait un Judas extraordinaire, rempli de saints. C'était très émouvant. C'est très émouvant de regarder. Quand on les voyait mieux, quand ils étaient exposés, qu'on pouvait les voir directement. Pour Benjamin, il dit, bien-aimé de Yahvé, il demeure en sécurité. Le Très-Haut le protège tout le jour. Et entre ses épaules, il demeure. Voyez Benjamin. C'est comme ça, Benjamin. Il était lié de façon particulière. Bien-aimé d'Yahvé, il demeure en sécurité. Le Très-Haut le protège tout le jour. Et entre ses épaules, il demeure. Et pour Joseph, il dit, béni d'Yahvé son pays. À lui, le don exquis du ciel haut et de l'abîme qui s'étale en bas. Le don exquis des produits du soleil, le don exquis des fruits des lunaisons, le meilleur don des montagnes d'antan, le don exquis des collines antiques, le don exquis de la terre et de ce qui la remplit, et la faveur de celui qui habite le buisson. Que ces bénédictions viennent sur la tête de Joseph, sur le crâne du consacré d'entre ses frères, premier-né du taureau, à lui la splendeur, corne de bœuf, cette corne. Avec elle, il heurtera les peuples, tous ensemble, jusqu'aux confins de la terre. Telles sont les myriades. Tous ensemble, jusqu'aux confins de la terre. Telles sont les myriades d'Éphraïm. Telles sont les milliers de Manassé. Et pour Zabulon, il dit, sois heureuse. Ils n'en ont pas beaucoup, vous voyez, les myriades d'Éphraïm, les myriades de Manassé. On comprend très bien, c'est ajouté, ça, c'est quelque chose de particulier. Et pour Zabulon, il dit, sois heureux, Zabulon, dans tes expéditions, Et toi, Issachar, dans tes tentes, les peuples sur les montagnes où ils invoquent offrent de justes sacrifices, car ils aspirent à eux l'opulence des mers et les trésors enfouis dans le sable. Pour Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Comme une lionne, il repose, il déchire bras et crâne. Il s'est attribué les prémices, car là, une part de chef était réservée. Il a rejoint les chefs du peuple, il a accompli la justice de Yahvé et ses jugements sur Israël. Et pour Dan, il dit, Dan est un jeune lion. Il s'élance du Bacam. Et pour Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et rempli de la bénédiction de Yahvé, prend possession de la mer et du sud. Et pour Aser, il dit, béni soit Aser entre tous tes fils, qu'il soit favorisé parmi ses frères, qu'il trempe son pied dans l'huile, que de fer et d'airain soient tes verrous, que ta sécurité dure autant que tes jours. Nul n'est comme le Dieu de Yekoro, qui chevauche les cieux pour le secourir, pour te secourir, et les nuées dans sa grandeur. Le Dieu d'antan est un refuge, et ici-bas des bras éternels. Il a chassé l'ennemi devant toi. Il a dit, extermine. Yahvé demeure en sécurité. La source de Jacob reste à part, dans un pays de froment et de vin nouveau, et dont le ciel distille la rosée. Heureux es-tu, Israël, qui est comme toi, peuple sauvé par Yahvé, le bouclier qui le secourt, le glaive qui le fait triompher. Tes ennemis t'aduleront, et toi, sur leur sommet, tu marcheras. Cette bénédiction, la bénédiction des 12 tribus, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, au sommet de Pisgah, qui fait face à Jéricho. Et Yahvé lui fit voir tout le pays, de Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, de Negev, le district, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers. Jusqu'à soir, Yahvé lui dit, « Voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, « À ta descendance, je te le donnerai. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. » C'est là que mourut Moïse, serviteur de Yahvé au pays de Moab, selon l'ordre de Yahvé. Il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, et nul n'a connu sa tombe jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans à sa mort. Son œil ne s'était pas affaibli et sa verdeur n'avait pas disparu. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. Après quoi, prirent fin les jours de pleurs pour le deuil de Moïse. Josué, le fils de Noé, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait appuyé les mains sur lui. Oui, première transmission du pouvoir et de la sagesse. Les fils d'Israël lui obéirent et ils agirent selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, lui que Yahvé connaissait face à face, soit pour tous les signes et prodiges que Yahvé l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout son pays, soit pour toute la grande puissance et toute la grande terreur qu'avait mise en œuvre Moïse sous les yeux de tout Israël. Mais la grandeur de Moïse qui apparaît, et c'est à la fin du Deutéronome, hein, ce qui montre bien, ce n'est pas l'Exode qui nous fait comprendre ça, c'est le Deutéronome. À ce point de vue-là, on peut dire, Le Deutéronome nous fait entrer dans une profondeur de Moïse que l'Exode ne dit pas. Et alors complète admirablement ces deux aspects. Et il nous fait comprendre justement ce que représente le médiateur.